Bien sûr que l'esclavage moderne, il a des modalités diverses dans les différents pays du monde. On considère, selon l'OIT, qu'il y a au moins 12 millions de personnes qui sont soumises à des situations d'esclavage aujourd'hui dans le monde. Et selon d'autres estimations, 27 millions. Hein. La situation en Inde ou au Pakistan est bien plus critique, on pourrait dire, que celle que nous avons au Brésil. Au Brésil, on parle de ça, 25, 50 000 personnes qui entrent chaque année dans le cycle de l'esclavage. C'est un esclavage qui dure quelques mois, au terme desquels ils sont rendus à leurs affaires, parfois sans recevoir un seul centime pour leur travail. Mais pendant 4 mois ou 3 mois ou 2 mois, ils ont été soumis à un traitement pire que des bêtes, comme ils disent. Maltraités, mal payés ou non payés, enfermés dans des locaux isolés au milieu de la forêt, sans aucun secours, sans aucune assistance, sans accès à de l'eau potable, sans les minimums de conditions sanitaires exigées, décentes, et soumis parfois des violences, des humiliations, des mécanismes subtils ou violents d'emprisonnement par le moyen d'une dette impayable, par le moyen de violence armée, par le moyen de confiscation de leurs documents personnels. Enfin, ce sont divers moyens. Le système légal brésilien aujourd'hui qualifie de travail esclave ou de travail analogue à celui d'esclave un ensemble de situations où ce qui est en jeu, c'est la négation de la dignité de la personne ou la négation de sa liberté, ou les deux à la fois, à travers un travail en conditions dégradantes, une journée de travail exhaustive, des mécanismes d'emprisonnement et de coercion de la liberté.
Et dans quel secteur cet esclavage moderne s'est-il le plus développé ?
Les secteurs où ça se produit sont principalement les secteurs d'une agriculture en expansion sur le territoire national. Ça a été dans un premier temps surtout en Amazonie. Hein. Pourtant, dans le nord du Brésil, dans des États dont le nom sont le Pará, le Maranhão, le Tocantins, le Mato Grosso, sont des champions de la production bovine. Ce sont des États qui ont conquis sur la forêt des espaces considérables pour en faire des pâturages. Dans un second temps, pour en faire des grandes plantations de soja, de maïs, de coton. Hein, c'est le cas, par exemple, d'un État du centre-ouest du Brésil qui s'appelle le Mato Grosso. Et plus récemment, dans ces régions de forêt, pour mettre à profit les arbres abattus quand ils n'ont pas une valeur de bois précieux, pour en faire du charbon de bois. Hein. Et du charbon de bois qui est utilisé dans la sidérurgie, dans la préparation de la fonte, qui est exportée vers les États-Unis, le Japon, et qui devient l'acier de nos voitures et de nos frigidaires. Hein. Ça, c'est une grande partie des cas de travail esclave sont rencontrés donc dans l'activité de déforestation, d'élevage bovin et de charbon de bois. Et une autre catégorie qui a augmenté dans la période récente, c'est celle des grandes cultures, des grandes monocultures. Le soja, le café, le coton et plus récemment la canne à sucre qui connaît un grand boom depuis 5 ans au Brésil en fonction du succès de l'éthanol comme combustible alternatif.
Quelles ont été les étapes pour lutter contre cet esclavage moderne ?
Dans un premier temps, ce qu'il a fait, c'est reconnaître le problème. C'était très important. Dans un second temps, il a dit on va créer des équipes spéciales, une force spéciale d'intervention pour libérer les esclaves. Puis on s'est aperçu que libérer des esclaves, c'est pas exactement la même chose que d'éradiquer le système de l'esclavage moderne. Il fonctionne comme une machine bien rodée, un cercle vicieux. Hein. Il fonctionne à base d'impunité, à base de recherche du profit forcené à tout prix, et à base de pauvreté, de précarité, de vulnérabilité. Si vous avez ces trois ingrédients, impunité, profit et vulnérabilité, vous avez probablement la possibilité que le cycle continue. Alors on a dû faire pression pour que, outre la libération des esclaves pour lesquels notre commission pastorale de la terre est devenue souvent le moyen de faire connaître leur situation, de dénoncer aux autorités, Il a fallu exiger des autorités la punition des employeurs et des intermédiaires qui utilisent cette pratique. On a avancé un peu, mais pas terriblement encore. Par exemple, on peut dire qu'aujourd'hui, pratiquement personne n'est en prison pour ce motif au Brésil. Personne ne perd sa terre ou a sa terre confisquée pour avoir pratiqué l'esclavage sur sa propriété. On a tout de plus des risques économiques et commerciaux ou financiers quand on pratique cette chose et qu'on est pris en flagrant délit. Il y a un pacte national des entreprises contre l'esclavage, une liste de la honte où le nom des esclavagistes est publié, ils perdent le recours au financement bancaire, ils perdent des clients, ils sont obligés de payer des compensations financières pour les dommages moraux qu'ils ont produits. Mais ceci est encore peu de choses par rapport au crime qu'est le travail esclave. Et puis, il y a un troisième niveau d'intervention qui vise à sortir du cercle vicieux, hein, qui serait d'avoir des politiques cohérentes de qualification professionnelle, d'éducation dans les zones rurales, d'amener les services publics auprès des secteurs les plus marginalisés, de faire la réforme agraire, qui atténuerait sans aucun doute les vulnérabilités qui sont à la base de ce système. Et sur ce troisième plan, on a encore beaucoup à faire, on a très peu avancé. On peut dire même qu'on est dans une situation parfois chaotique, parfois contradictoire, paradoxale. Le même État qui libère des esclaves, et il en a libéré 40 000 depuis 1995 au Brésil, hein, c'est pas peu de choses. Ce même État, il produit et reproduit de nouvelles vulnérabilités. Par exemple, son appui forcené à l'expansion des monocultures, de la canne à sucre, l'éthanol, le soja. Ces monocultures sont des systèmes qui ont un effet d'exclusion, de reconcentration de la terre. Elles s'accompagnent de l'implantation de grands projets qui, eux-mêmes, quand ils sont réalisés de manière souvent violente ou intempestive, sans consultation, provoquent des drames humains, de nouveaux motifs d'expulsion des campagnes, de nouveaux motifs pour l'exode rural, de nouvelles vulnérabilités. Dans cette situation, nous avons parfois fort à faire, parce que ces contradictions traversent le système de l'État, la justice, et la politique économique est en jeu. Nous sommes obligés de mettre en question les options économiques. Et là-dessus, comme le Brésil en ce moment est un pays, comme on dit, émergent, hein, qui est en train de gagner des parts de marché sur le marché mondial à travers son agribusiness, comme on dit, conquérant, très dynamique. Nous avons de nouveau des voix dans les secteurs des élites économiques pour dire « ouais, cette histoire de travail esclave, cette histoire de destruction de l'environnement, c'est des bobards, c'est des inventions ». Que nos concurrents ou que des ONG ou que des pastorales mal intentionnées inventent pour nous casser les reins sur les marchés. Et de nouveau réapparaît parfois le discours négationniste, hein, qui a fait tant de mal à l'avancée, à la construction d'une politique de lutte contre l'esclavage. Donc la partie n'est pas gagnée, nous avons toujours à être vigilants, c'est pourquoi notre campagne continue.